art et nature. Les Grecs, ou du moins les Athéniens, aimaient à entendre bien parler. C'était même une prédilection des plus violentes qui les distingue plus que toute autre chose des autres nations. Et ainsi, ils exigeaient même de la passion sur la scène qu'elle parlât bien. Et c'est avec ravissement qu'ils subissaient l'artificiel du vers dramatique. Dans la passion, la nature est si économe de paroles, si muette et si embarrassée. Ou bien, lorsqu'elle trouve ses mots, elle est si confuse et si déraisonnable, elle a tellement honte d'elle-même. Maintenant, grâce aux Grecs, nous nous sommes tous habitués à cette dénaturation sur la scène. Tout comme nous supportons et supportons volontiers, grâce aux Italiens, cette autre dénaturation, la passion qui chante. C'est devenu pour nous un besoin que nous ne pouvons satisfaire dans la réalité, d'entendre, dans les situations les plus difficiles, des hommes parler bien et tout au long. Nous sommes maintenant ravis lorsque les héros tragiques trouvent encore des paroles, des raisons, des gestes éloquents, et en somme un esprit clair là où la vie s'approche des gouffres et où l'homme réel perd généralement la tête et certainement le beau langage. Cette espèce de déviation de la nature est peut-être la pâture la plus agréable pour la fierté de l'homme. C'est généralement à cause d'elle qu'il aime l'art, l'expression d'une anomalie et d'une convention supérieure et héroïque. On fait avec raison un reproche au poète dramatique lorsqu'il ne transforme pas tout en raison et en parole et qu'il garde toujours un reste de silence. De même que lorsqu'on est mécontent d'un musicien qui, dans un opéra, au moment du mouvement de passion le plus intense, ne sait pas trouver une mélodie, mais seulement un balbutiement naturel, un cri plein d'expression. Car ici, il faut contredire la nature. Ici, il faut que l'attrait vulgaire de l'illusion cède la place à un attrait supérieur. Les Grecs vont très loin dans cette voie, loin, effroyablement loin. Tout comme ils construisent la scène aussi étroite que possible et s'interdisent tout effet par la profondeur des arrière-plans. Tout comme ils rendent impossible à l'acteur le jeu muet et le mouvement léger pour le transformer en un fantôme solennel, guindé et blafard. Ils ont aussi pris à la passion elle-même son arrière-plan profond pour lui dicter une règle de beau discours. Oui, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour aller contre l'effet élémentaire des images qui éveillent la crainte ou la pitié. Car ils ne veulent pas la crainte et la pitié. Honneur à Aristophane, le plus grand honneur. Mais il n'a certainement pas touché juste lorsqu'il a parlé. L'ultime but de la tragédie grecque. Que l'on étudie donc les poèmes grecs de la tragédie pour voir ce qui a le plus excité leur esprit d'application, leur esprit inventif, leur émulation. Ce ne fut certainement pas l'intention de subjuguer le spectateur par les passions. L'Athénien allait au théâtre pour entendre de beaux discours. Et c'est de beaux discours que s'occupait Sophocle. Que l'on me pardonne cette hérésie. Il en est tout autrement de l'opéra sérieux. Tous ces grands maîtres prennent à cœur d'éviter que l'on comprenne leurs personnages. Un mot saisi au passage peut aider le spectateur inattentif. Dans l'ensemble, il faut que la situation s'explique par elle-même. Les discours n'ont aucune importance. C'est ainsi qu'ils ont tous pensé, et c'est ainsi qu'ils se sont tous amusés à faire leur farce avec les mots. Peut-être ont-ils seulement manqué de courage pour exprimer entièrement leur dernier dédain des paroles. Un peu plus d'insolence chez Rossini, et il aurait fait chanter d'un bout à l'autre la 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 la. Il y aurait même eu quelques raisons à cela. C'est que, précisément, il ne faut pas croire sur parole les personnages d'opéra, mais sur les sons. Voilà la différence. Voilà la belle dénaturation à cause de quoi l'on va à l'opéra. Le récitativo secco lui-même ne doit pas être écouté en fond en tant que texte et parole. Cette sorte de demi-musique doit au contraire accorder à l'oreille d'abord un peu de repos. Le repos après la mélodie, la jouissance la plus sublime et par conséquent la plus fatigante de cet art. Mais bientôt autre chose, c'est-à-dire une impatience croissante, une résistance croissante, un nouveau désir de musique complète, de mélodie. Qu'en est-il à ce point de vue de l'art de Richard Wagner? En serait-il peut-être de même? Peut-être autrement? Il m'a souvent semblé qu'il aurait fallu apprendre par cœur avant le spectacle les paroles et la musique de ses créations sous peine, c'est ce qu'il m'a semblé, de n'entendre ni les paroles, ni même la musique. Goût grec. Qu'y a-t-il de beau à cela ? Disait cet arpenteur après une représentation d'Iphigénie. On n'y démontre rien. Les Grecs ont-ils été si loin de partager cette opinion ? Chez Sophocle, du moins, tout est démontré. L'esprit n'est pas grec. Dans tous leurs modes de pensée, les Grecs sont indiciblement logiques et simples. Ils ne sont point fatigués de ces modes, du moins pendant leur période la plus longue et la meilleure, comme il arrive souvent en français. Lesquels aiment trop faire un petit bond dans l'opposé et ne supportent au fond l'esprit de logique que lorsqu'il révèle, par une foule de ces petits bonds dans l'opposé, sa gentille sociabilité et son abnégation sociale. La logique leur paraît aussi nécessaire que le pain et l'eau, mais aussi comme une espèce de nourriture de prisonnier dès que l'on doit s'absorber, boum boum boum, mais aussi comme une espèce de nourriture de prisonnier dès que l'on doit l'absorber seul et sans apprêt. Dans la bonne société, il ne faut jamais prétendre avoir raison complètement et seul, comme le veut la logique pure. De là, la petite dose de déraison dans tout esprit français. Le sens de la sociabilité était beaucoup moins développé chez les Grecs qu'il ne l'est et ne l'était chez les Français. De là, si peu d'esprit chez leurs hommes les plus spirituels. De là aussi, si peu de bons mots, même chez leurs farceurs. De là, hélas. On ne croira déjà pas ces paroles et combien d'autres de la même espèce ai-je encore sur le cœur. Estres magnat tacere, dit Martial avec tous les bavards. Traduction. On peut évaluer le sens historique que possède une époque à la façon dont cette époque traduit et cherche à s'assimiler les temps passés et les livres anciens. Les Français du temps de Corneille, et encore ceux de la Révolution, s'emparèrent de l'Antiquité romaine avec des façons que nous n'aurons plus le courage d'avoir grâce à notre sens historique supérieur. Et l'Antiquité romaine elle-même, de quelle façon violente et naïve tout à la fois fut-elle ma base sur tout ce qui est grand et bon dans la plus ancienne Antiquité grecque ? Comme ils transposaient alors dans le présent romain, comme ils effaçaient, avec attention et sans souci, la poussière des ailes du papillon moment. C'est ainsi qu'Horace traduisait çà et là Alcée ou Archiloque, ainsi faisait Properce, le Callimaque et de Philétas, des poètes du même rang que Théocrite si nous avons le droit de juger. Il leur importait peu que le véritable créateur eût vécu telle ou telle chose et en eût marqué les traces dans ses vers. En tant que poète, ils étaient mal disposés à l'égard de l'esprit fureteur archéologique qui précède le sens historique. En tant que poète, ils n'admettaient pas ces choses toutes personnelles, les noms et tout ce qui était propre à une ville, à une côte, à un siècle, comme une mise à un masque, et ils s'empressaient de mettre en place ce qui était actuel et romain. Ils semblaient vouloir nous demander « Ne devons-nous pas renouveler pour nous ce qui est ancien et nous accommoder à sa façon ?» Ne devons-nous pas avoir le droit d'insuffler notre âme à ce cadavre ? Car enfin, il est mort, et tout ce qui est mort est si laid. Ils ne connaissaient pas la jouissance du sens historique. Le passé et l'étranger leur étaient pénibles, et pour eux, en tant que Romains, c'était là une incitation à une conquête romaine. En effet, traduire, c'était alors conquérir, non seulement en négligeant l'historique. Bien plus, on ajoutait une allusion à un événement contemporain et, avant tout, on effaçait le nom du poète pour y mettre le sien. On n'avait pas à cause de cela le sentiment du vol, on agissait, au contraire, avec la meilleure conscience de l'Imperium Romanum. De l'origine de la poésie. Les amateurs du fantastique chez l'homme, qui sont les mêmes à soutenir la doctrine de la moralité instinctive, raisonnent ainsi. En admettant que l'on ait vénéré de tout temps ce qui est utile comme divinité supérieure, d'où a bien pu alors venir la poésie ? Cette façon de rythmer le discours qui, loin de favoriser l'intelligibilité de la communication, en diminue plutôt la clarté, et qui, malgré cela, comme une dérision à toute convenance utile, a levé et lève encore sa graine partout sur la terre, la sauvage et belle déraison vous réfute, ô utilitaire ! C'est précisément la volonté d'être une fois délivré de l'utilité qui a élevé l'homme, qui lui a inspiré la moralité et l'art. Eh bien, dans ce cas particulier, il me faut parler en faveur des utilitaires. Ils ont si rarement raison que c'est à faire pitié. C'est pourtant l'utilité, et une très grande utilité que l'on avait en vue dans ces temps anciens qui donnèrent naissance à la poésie, alors qu'on laissa pénétrer dans le discours le rythme, cette force qui ordonne à nouveau tous les atomes de la phrase, qui enjoint de choisir les mots et qui colore à nouveau la pensée, la rendant plus obscure, plus étrange, plus lointaine. C'est là, il est vrai, une utilité superstitieuse. On voulut graver les désirs humains dans l'esprit des dieux au moyen du rythme, après que l'on eut remarqué qu'un homme retient mieux dans sa mémoire un vers qu'une phrase en prose. Par la cadence rythmique, on pensait aussi se faire entendre à de plus grandes distances. La prière rythmique semblait s'approcher davantage de l'oreille des dieux. Mais avant tout, on voulait tirer parti de cette subjugation élémentaire qui saisit l'homme à l'audition de la musique. Le rythme est une contrainte. Il engendre un irrésistible désir de céder, de se mettre à l'unisson. Non seulement les pas que l'on fait avec les pieds, mais encore ceux de l'âme suivant la mesure. Et il en sera probablement de même, ainsi raisonnait-on, de l'âme des dieux. On essaya donc de les forcer par le rythme et d'exercer une contrainte sur eux. On leur lança la poésie comme un lacet magique. Il existait encore une représentation plus singulière, et celle-ci a peut-être contribué le plus puissamment à la formation de la poésie. Chez les pythagoriciens, la poésie apparaît comme enseignement philosophique et comme procédé d'éducation. Mais bien avant qu'il y eût des philosophes, on accordait à la musique la force de décharger les passions, de purifier l'âme, d'adoucir la férocité animée. Et justement parce qu'il y a de rythmique dans la musique. Lorsque la juste tension et l'harmonie de l'âme venaient à se perdre, il fallait se mettre à danser. C'était là l'ordonnance de cette thérapeutique. Avec elle, Terpandre apaisa une émeute. Empédocle adoucit un fou furieux. Damon purifia un jeune homme languissant d'amour. Avec elle, on mettait aussi en traitement les dieux sauvages assoiffés de vengeance. D'abord, en portant à leur comble le désir et l'extravagance de leur passion. On rendait donc l'enragé frénétique, l'assoiffé ivre de vengeance. Tous les cultes orgiaques veulent décharger en une seule fois la férocité d'une divinité et en faire une orgie pour qu'après cela elle se sente plus libre et plus tranquille et laisse l'homme en repos. Mélos signifie, d'après sa racine, un moyen d'apaisement. Non parce que le chant est doux par lui-même, mais puisque ses effets ultérieurs produisent la douceur. Et l'on admet que, non seulement dans le chant religieux, mais encore dans le chant profane des temps les plus reculés, le rythme exerçait une puissance magique, par exemple lorsque l'on puisait de l'eau ou lorsque l'on ramait. Le chant est un enchantement des démons que l'on imaginait actifs dès que l'on en usait. Il les rend serviables, esclaves et instruments de l'homme. Et dès que l'on agit, on tient un motif à chanter. Chaque action est rattachée au secours des esprits. Les formules magiques et les enchantements semblent être les formes primitives de la poésie. Lorsque le vers était employé pour un oracle, les Grecs disaient que l'hexamètre avait été inventé à Delphes. Le rythme devait là aussi exercer une contrainte. Se faire prophétiser, cela signifie primitivement, d'après l'étymologie du mot grec qui me semble probable, se faire déterminer quelque chose. On croit pouvoir contraindre l'avenir en gagnant Apollon à sa cause. Lui qui, d'après la représentation ancienne, est bien plus qu'un dieu prévoyant l'avenir. Telle que la formule est exprimée, à la lettre et d'après son exactitude rythmique, telle elle lit l'avenir. Mais la formule est de l'invention d'Apollon qui, en tant que dieu des rythmes, peut lier aussi les divinités du destin. Dans l'ensemble, y eut-il en somme jamais, pour l'homme ancien et superstitieux, quelque chose de plus utile que le rythme. Par lui, on pouvait tout faire. Accélérer un travail d'une façon magique, forcer un dieu à apparaître, à être présent, à écouter, accommoder l'avenir d'après sa propre volonté, décharger sa propre âme d'un trop-plein quelconque, la peur, la manie, la pitié, la vengeance, et non seulement sa propre âme, mais encore celle du plus méchant démon. Sans le vers, on n'était rien. Par le vers, on devenait presque un dieu. Un pareil sentiment fondamental ne peut plus être entièrement extirpé. Et maintenant encore, après un travail de milliers d'années pour combattre une telle superstition, le plus sage d'entre nous devient à l'occasion un insensé du rythme, ne fût-ce qu'en ceci qu'il sent une idée plus vraie lorsqu'elle prend une forme métrique et s'avance avec un tresseau divin. N'est-ce pas chose très plaisante que les philosophes les plus sérieux, malgré toute la sévérité qu'ils mettent d'autre part à manier les certitudes, s'appuient toujours encore sur des sentences de poètes pour donner à leur idée de la force et de l'authenticité? Et pourtant, il est plus dangereux pour une idée d'être approuvée par les poètes que d'être contredite par eux. Car, comme dit Homère, les poètes mentent beaucoup.